One more time. Yeah, 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 girls.
Yeah, 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 yeah,
yeah. Woo! Sing it out, girls, sing it out. Blow for me. Oh, yeah. Oh, yeah. Huh. Soca music, the best thing in the world today.
Soca music.
Groove soca. Ladies and gentlemen, the band is the Vibrations International. One more time. I want you to understand what's happening. Man, do this. Do this. Diggy, 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 diggy. Oh, too good, too good, too good. Lord, Lord. We're gonna go to a soca groove because we gotta get out of here. Take me to a groove. Now listen, hold it, hold it, hold it. When I say, good song, fellas. Now listen, listen to me, listen to me. Dig, dig, you got to do now, dig, dig, that's right. You hear me? When I say dig, dig, you gotta do, that's nice. This is a sexy part of our music, you see. When we say dig, dig, we move our rhythm section. Let's go to a groove, let's go to a groove, let's go to a soca, soca, soca groove. Oh yeah, music, music, music. Huh. Huh. Ladies and gentlemen, we're gonna leave you. Goodbye, the Vibrations International, Lord Shorty, Ella Handel and all the gang.
9h.
L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors pour cette troisième émission en Camargue, je vous amène dans un endroit un peu plus préservé. Il n'y a pas de panneau qui indique, qui vous dit d'arriver par là. Et pourtant, il y a un accueil, il y a un parking, il y a beaucoup de monde. C'est en fait un repère de scientifiques qui est perdu vraiment au milieu de cette Camargue à Manade, avec des prés à taureaux, des vaches et tout ça. Mais c'est vraiment un petit peu à part. On n'est pas sur la route des Saintes-Maries-de-la-Mer où vous avez tous les kilomètres un restaurant, une attraction. Ici, on est vraiment dans un endroit beaucoup plus préservé, où on sent que c'est ici que se fait un peu l'interaction entre la science, l'agriculture, qui est un des points forts et un problème à la fois de la Camargue et à la fois, je pense, un des points forts de la cohabitation des différents usages de cet espace naturel et agricole et touristique. Et pour nous parler de cet endroit qui s'appelle la Tour du Vala, j'ai rendez-vous avec Jocelyn Champagnon. Bonjour Jocelyn.
Bonjour.
Alors, où est-ce qu'on est ? Décris-nous ce qu'est la Tour du Vala, cet endroit où nous sommes.
Alors, on est ici à la Tour du Vala. C'est une fondation privée reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a 75 ans et qui est dédiée à la conservation des zones humides en Méditerranée. Donc, on est implanté au cœur de la Camargue et on travaille beaucoup sur notre domaine qui fait 3000 hectares, sur la Camargue avec qui on collabore énormément avec les acteurs locaux et puis aussi au niveau de l'ensemble du bassin méditerranéen, donc des 26 pays de la mer Méditerranée, pour protéger les zones humides.
Alors pourquoi c'est né ici ? C'est une zone humide à part, la Camargue. Et est-ce qu'il y a des exemples autres autour de la Méditerranée ou finalement pas tant que ça ?
Pourquoi ça a été créé ici, la Tour du Vala ? C'est que une personnalité très très importante, un riche mécène, est tombé amoureux de la Camargue. Il s'agit de Luc Hoffmann dans les années 50. Quand il a découvert cet endroit, il l'a acquis avec l'idée d'en faire très rapidement une station biologique. Pour préserver ces milieux, la Camargue étant déjà menacée à cette époque par différents développements industriels, agriculture. Et donc, il y a eu une station biologique qui a été créée ici.
Alors, une station biologique, c'est quoi exactement ?
Alors, c'était étudier, comprendre les systèmes de zones humides, les espèces qui sont présentes, que ce soit, par exemple, les systèmes hydrologiques ou bien encore les oiseaux qui sont présents. Luc Hoffmann et son équipe ont beaucoup travaillé au début sur la migration des oiseaux. Il y avait peu de connaissances sur les oiseaux et ils ont fait beaucoup de bagages pour en savoir plus sur les oiseaux, d'où est-ce qu'ils venaient, où est-ce qu'ils allaient. Et puis du coup, la Tour du Valat s'est développée au fur et à mesure des années et elle s'est enrichie avec un travail non plus vraiment que sur le domaine, ni sur la Camargue, pour finalement se développer vraiment à l'échelle du bassin méditerranéen. Et des zones comme la Camargue, il y en a d'autres en Méditerranée. Il y a des sites très importants. Je pense par exemple au delta du Gediz en Turquie, qui est un site important, un très grand estuaire pour une très très belle zone humide. Mais il y en a bien d'autres encore dans les 26 pays de la Méditerranée.
En tout cas, c'est le plus beau, c'est le plus bel estuaire méditerranéen de France, ça c'est sûr.
Ah oui, c'est celui qui est reconnu le plus important en France, bien qu'on ait des zones humides encore plus importantes qui ont pu être détruites, drainées en France. Je pense par exemple aux Landes en Gironde, qui sont très très importantes, qui sont une zone humide, mais qu'on l'oublie parce que le milieu a été complètement transformé.
Au Second Empire, on a planté du pin. Le pin n'était pas là. Le pin a permis d'assécher les marais et de transformer les marais en espace de production forestière. Ici, ça n'a pas été transformé en espace de production forestière. Néanmoins, on n'est plus sur une Camargue naturelle, un estuaire naturel. On est quand même, on a des chemins, des canaux, des champs délimités par les canaux, bien souvent d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce milieu-là ?
Alors en fait, c'est un des choix qui ont été faits au 19e siècle de contrôler la nature. C'est-à-dire qu'on voulait pouvoir travailler de l'agriculture sur ces milieux qui étaient considérés comme sauvages. Et donc il y a un endiguement. Le principal problème, c'était le Rhône et ses crues. Et donc il y a eu un endiguement du Rhône pour contrôler son passage depuis Arles jusqu'à la mer, et puis aussi un endiguement au niveau de la mer pour contrôler les invasions marines. Et de ce fait,
garder un maximum d'eau douce et faire reculer un petit peu le côté salé saumâtre.
À l'époque, c'était plus pour pouvoir avoir des terres qui soient accessibles. Effectivement, et puis contrôler peut-être sur la partie basse des zones qui ne seraient pas accessibles pour l'agriculture, effectivement.
Alors la Tour du Valat, c'est combien de scientifiques à peu près qui sont ici et qui vivent toujours de cette fondation privée ?
Donc la Tour du Valat, c'est plus de 80 salariés. Et puis on accueille de nombreux stagiaires, des volontaires européens, des services civiques. Donc c'est plus de 100 personnes qui travaillent ici sur le site. Et le mode de financement, il est très divers. C'est une fondation privée. Il y a encore 50% de son budget qui vient de fonds propres. Et puis le reste, c'est on candidate pour avoir des financements, qu'ils viennent au niveau régional, au niveau européen, au niveau national, d'autres fondations privées. Donc on a une multitude de financeurs sur projet et puis on mène ces projets en collaboration avec plein d'autres organisations.
Quels sont les domaines ? Alors toi, on va le voir dans un deuxième temps. Toi, tu es vraiment basé sur la conservation des espèces, qui est un petit peu le cœur et la base de l'endroit. Mais il n'y a pas que ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il y a comme autre domaine qui est étudié ici à la Tour du Valat ?
Le domaine de la Tour du Valat, il a une équipe dédiée pour sa gestion. Donc c'est une réserve naturelle régionale et donc il y a une équipe qui gère cette réserve. Et puis après, il y a 5 thèmes de recherche qui sont donc la conservation des espèces dans lequel je suis, l'écologie de la santé, un thème qui regroupe restauration et agriculture, un thème qui est science interface société et puis un autre thème qui s'intéresse à la modélisation des systèmes hydrologiques.
Alors désolé, mais tu nous en dis 2 mots de chacun ?
On va commencer par le terme conservation des espèces où on a une vision espèce centrée pour conserver des espèces qui sont dans des états qui sont défavorables. On travaille beaucoup historiquement sur les poissons et sur les oiseaux.
C'est eux qui ont le plus souffert des pesticides. Qu'est-ce qui les a fait souffrir ?
Alors, je pense que toutes les espèces, on en parle beaucoup aussi des insectes qui ont énormément souffert. Donc, toutes les espèces ont souffert hein, de nombreuses menaces. Alors, les poissons, beaucoup des espèces exotiques envahissantes.
Comme l'écrevisse américaine.
L'écrevisse, le silure, la carpe également. Et puis l'endiguement, le fait qu'il y ait des difficultés à pouvoir mener son cycle de vie entre la mer et les étangs. Je pense à l'anguille, qui reste une espèce en danger critique d'extinction et sur laquelle on travaille beaucoup. Où on travaille beaucoup avec des collaborateurs en Camargue pour restaurer et faire en sorte que l'anguille puisse retrouver son cycle lorsqu'elle elle atteint l'âge adulte, qu'elle puisse repartir en mer. Et souvent, ça a été compliqué, à part le fait que la Camargue est endiguée et qu'il y a beaucoup de canaux.
Elles arrivent quand même à passer, il y a des endroits où elles peuvent passer pour remonter, parce qu'on le dit, les anguilles naissent dans les rivières, par ici, elles repartent dans la mer jusqu'à la mer des Sargasses, hein, de l'autre côté, et puis reviennent pour... c'est un grand voyage, mais il faut qu'elles puissent remonter la rivière et se reproduire en eau douce.
Ouais, c'est exactement ça, ouais. Alors il y a des passages, et on en a créé de nouveaux sur les 10 dernières années, pour s'assurer que... Et on continue à travailler sur ces sujets-là, pour multiplier les passages et la possibilité de ces espèces de pouvoir avoir tout leur cycle de vie. On travaille sur les polluants également, parce que là, on est alimenté par les eaux du Rhône, et donc le Rhône charrie des polluants nombreux. Il y en a d'autres...
Normalement, ça s'améliore. Normalement, les centrales d'épuration marchent mieux, le pays se désindustrialise, malheureusement, pas toujours heureusement. Des normes sont arrivées quand même pour encadrer les industries restantes. Donc, dans quel état les choses s'améliorent ou...
Alors, en fait, il y a des nouveaux polluants qui apparaissent. On pense effectivement aux pathogènes, mais il y a aussi les PCB qui sont importants. Maintenant, il y a les.
Donc ça, c'est des plastiques. Ça, c'est des choses, par exemple, qu'on va avoir même dans certains vêtements de sport qui vont partir, enfin, même pas que de sport, qui vont passer dans les machines à laver, qui vont libérer des plastiques. C'est ça, par exemple.
C'est ça, exactement. Maintenant, on s'intéresse de plus en plus à ces polluants qu'on appelle polluants éternels, les PFAS, qu'on retrouve à tous les niveaux. Et qui peuvent affecter aussi les espèces. Et puis, il y a aussi les pesticides qui peuvent être utilisés et qui entraînent des métaux lourds qui affectent aussi les espèces. Donc, il y a un nombre de polluants importants et puis des pathogènes toujours présents également. Ouais.
Et les médicaments que nous prenons, qui aussi peuvent même changer le sexe de certains poissons.
Et effectivement, des oiseaux aussi. Il y a des résistances aux antibiotiques qui ont été mises en évidence chez les oiseaux. Alors que donc même dans le milieu naturel, même dans des zones très retirées, on retrouve des résistances aux antibiotiques du fait des médicaments qui sont relargués dans le milieu naturel.
Donc il y a des choses qui ont dû évoluer. Le réchauffement climatique aussi, certainement, s'évalue, se repère ici. Qu'est-ce que vous avez vu qui se passait sur les espèces ?
Ouais. Alors moi je vais parler plus des oiseaux parce que c'est mon domaine de recherche, donc l'évolution des populations d'oiseaux. Les oiseaux des zones humides se portent mieux que les oiseaux des milieux agricoles par exemple. Donc ils se portent pas mal. Pourquoi ? Parce que principalement, je simplifie grandement les causes et les conséquences, mais à partir des années 70, il y a eu des mesures de protection qui ont été mises en place. En particulier, donc, les espèces avant ça, elles pouvaient être dérangées, les œufs pouvaient être prélevés, en particulier les grandes espèces, on pense aux cigognes, aux flamands et aux grues. Et en fait, le fait de protéger les espèces, donc ça a été une directive...
Et les biotopes.
Oui, les biotopes, ça a été une directive qui est plutôt intervenue au niveau international, du fait de l'Europe, a contribué à ce que ces espèces se portent mieux. Donc je pense à la spatule blanche, qui n'était pas présente en Camargue et qui a commencé à arriver dans les années 90. Les grues, qui étaient aussi peu présentes et qui ont trouvé ici maintenant un site pour passer l'hiver très 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 attractif. On dénombre jusqu'à 40 000 grues en hiver ici en Camargue, alors qu'il n'y en avait pas au début des années 2000. Donc on a des augmentations comme ça de population. Les cigognes aussi, qui avaient pratiquement disparu de France dans les années 60, qui ont rebondi et maintenant on compte plus de 1000 cigognes en hiver. Les flamants roses, qui étaient au bord de l'extinction dans les années 50, pour lesquels on a contribué aussi en installant des îlots artificiels pour qu'ils puissent se reproduire parce qu'ils n'avaient plus de lieu pour se reproduire. Donc on a quelques espèces qui se portent mieux, et puis il y en a d'autres qui se portent moins bien. Du fait de menaces de différentes origines, mais je pense par exemple aux oiseaux des roselières. Les roselières en Méditerranée se dégradent fortement parce qu'il y a une augmentation de la salinité du fait de l'élévation du niveau de la mer, et aussi parce que donc leur habitat se réduit et on a du mal à les précipitations diminuent. Donc on a du mal à amener l'eau pour que les roselières se portent bien, et donc on voit une diminution très forte, par exemple du butor étoilé, pour lequel
c'est un rapace, c'est ça?
Alors non, c'est un héron. C'est un héron très cryptique qui se cache dans les roselières.
Ah oui, petit gris, c'est ça?
On le voit pas beaucoup. Alors le petit gris, c'est le blongios, c'est son cousin. Le butor étoilé, il a vraiment des teintes qui s'associent au roseau. Et c'est un oiseau qui en plus peut essayer de se cacher en mettant son bec dirigé vers le haut et faire comme s'il était une tige de roseau en se balançant tout doucement au gré du vent pour passer inaperçu. Et cette espèce, il y a eu des programmes pour améliorer l'état des populations de cette espèce. Et en fait, même comme ça, on s'aperçoit que la population continue à diminuer. Donc on continue à travailler sur cette espèce. Le héron pourpré aussi, c'est un oiseau qui niche dans les roselières et qui diminue beaucoup encore en Méditerranée. Donc il y a quelques espèces qui se portent pas aussi bien que d'autres.
Et en particulier, tu m'as dit aussi celles qui sont liées à l'agriculture.
Tout à fait, ouais. Alors là, donc c'est des espèces qui sont moins typiques des zones humides, mais qui sont liées, ouais, à l'agriculture. Donc
et là, c'est l'intensification, le fait que les exploitations vont grandir, se spécialiser, ne plus avoir de haies entre les champs, le fait d'avoir de grands champs comme ça en monoculture qui réduit leur population.
C'est exactement ça, ouais. Et donc on peut citer la tourterelle des bois, par exemple, qui est en déclin très fort à l'échelle internationale et nationale, ou la perdrix rouge aussi. Alors il y a beaucoup de réintroduction de perdrix rouge, mais la perdrix rouge sauvage a beaucoup diminué, et il y a plusieurs espèces de passereaux également qui ont beaucoup décliné et qui étaient associées au milieu agricole. Ouais.
Salut mon petit monde, mon petit bout de moi, bienvenue dans la ronde, le temps que ça durera. Dès la première seconde, j'ai suivi tous tes pas, et si autour ça gronde, je te serre contre moi. Tu es la nouvelle donne, le tout petit bout d'homme, et en moi ça résonne, alors je t'accompagne. N'aie pas peur mon petit, je serai là toute ma vie, je ferai des folies pour te protéger des flammes. La vie est une tornade, elle nous pousse au gré des vents, et on est tous capables de la mordre à pleines dents. Il faudra être doux, ne pas se laisser faire, il faudra être fou, affronter les enfers. Allez mon petit bout, je sais c'est pas facile, ne plie pas les genoux, ouvre grand les pupilles. Tout est de l'intérêt, il suffit de vouloir, que la curiosité se transforme en savoir. Je t'apprendrai la terre, l'air, les océans, je t'apprendrai à rire, à faire, à prendre le temps, je t'apprendrai à te taire face à ceux qui parlent tant, à te mettre en colère sans devenir violent. Je t'apprendrai la patience, celle que je n'ai pas, je ferai le silence quand tu es dans tes droits. Je te montrerai l'amitié et la force que l'on en tire, l'amour est à créer, c'est ça notre avenir. Tu sais mon petit bout, tu es ma raison d'être, grâce à toi je tiens le coup, Je me bats pour la planète, moi. Je sais que toi, tu changeras le monde. Que tout en toi envoie les bonnes ondes. Salut mon petit monde. Salut mon petit monde, mon petit bout de moi. Bienvenue dans la ronde, le temps que ça durera. Dès la première seconde, j'ai suivi tous tes pas. Et si autour ça gronde, je te serre contre moi.
Alors nous sommes de retour ici à la Tour du Valat, donc cet endroit qui accueille à peu près 80 scientifiques au sein de la Camargue pour étudier à la fois la Camargue et son environnement et à la fois l'ensemble des zones humides du pourtour méditerranéen, toujours avec Jocelyn Champagnon qui a lui la spécialité de travailler sur la conservation, on l'a vu, conservation des oiseaux en particulier. Il y a ce que j'ai trouvé intéressant en regardant rapidement le site internet, c'est cette interface entre science et société. C'est-à-dire qu'ici, on l'a dit au tout début, on est dans une zone où il y a une espèce de tension depuis très longtemps, depuis que l'homme a pu maîtriser un petit peu la nature, entre l'agriculture, la chasse, le tourisme, il y a comme ça, et la science et la conservation, il y a plusieurs intérêts humains qui se retrouvent en jeu sur le même territoire. Et donc ça, c'est un sujet que tes collègues étudient. Et je trouve assez intéressant parce que on touche là aux sciences sociales.
Ah ouais. Alors c'est vrai que ce territoire, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il a été protégé dans le sens, on a dit ok, on développe l'industrie du côté est du Grand Rhône, c'est le port de Fos, Marseille. De l'autre côté, le long du Languedoc-Roussillon, on va développer le tourisme et on préserve la Camargue, ce milieu extraordinaire pour la nature. Il y a des hommes qui vivent sur ce territoire et il y a de multiples activités. Et c'est vrai que le territoire, il est propice à des divergences entre les différents acteurs, donc entre les agriculteurs, les chasseurs, le tourisme et les objectifs de protection de la nature. Et nous, en tant qu'institut de recherche, on travaille avec tous ces différents acteurs. Fréquemment, on échange, on se connaît, on se concerte et on essaye de mettre un petit peu de rationalité dans les échanges, d'apporter des réponses aux questions sur les phénomènes de comment par exemple les flamants roses entrent dans les rizières et créer des dégâts auprès des riziculteurs, comment on accompagne les riziculteurs pour pouvoir trouver la meilleure manière d'éviter ces entrées des flamants roses tout en préservant les autres espèces sans déranger à outrance. Et du coup, on travaille beaucoup sur des problématiques qui peuvent être des thématiques de tensions, de conflits, et en essayant d'apaiser ces tensions et ces conflits par l'échange, par la connaissance.
Alors vous êtes également proactif, c'est-à-dire que pour la conservation des espèces, vous travaillez à la restauration aussi des milieux. Comment ça se passe? Alors en premier lieu, j'imagine sur les 3000 hectares que possède la Tour du Valat, mais au-delà.
Et tout à fait, au-delà, parce que finalement, sur les 3000 hectares, il y a 2500 hectares qui sont en réserve naturelle régionale, pour lequel il y a un plan de gestion et pour lequel on est satisfait en termes de biodiversité. Il y a toujours des améliorations à faire, c'est pour ça qu'il y a un plan de gestion, mais pour lequel on a quand même une bonne biodiversité qui s'exprime.
La gestion, ça consiste en quoi ?
En fait, l'homme a pu exercer des pressions sur les milieux. Et on l'a dit, la Camargue est endiguée depuis 150 ans. Et donc, il n'y a plus d'eau qui rentre de manière dynamique et naturelle dans le delta. Donc, il va falloir faire rentrer de l'eau. Donc, on a une gestion qui est proactive, par exemple, pour savoir à quel moment on met de l'eau dans les marais.
Via des digues, c'est-à-dire vous prenez de l'eau du Rhône, c'est-à-dire ce qui faisait autrefois naturellement où le Rhône s'étalait sur l'ensemble de l'estuaire. Maintenant, via des canaux, on amène cette eau douce au moment opportun où on le souhaite pour élever le niveau, arroser, remettre de l'eau, en enlever.
Tout à fait, on fait ça, mais on essaie de le faire en, en lien le plus étroit avec les conditions naturelles, avec les climats méditerranéens qui typiquement ce sont des périodes très sèches en été et des eaux qui arrivent en hiver. On travaille par exemple à la création de mares temporaires qui ont été très malmenées, qui ont disparu beaucoup et pourtant qui accueillent une flore spécifique importante, des plantes qui sont capables de faire face à des assecs prolongés pendant plusieurs années. Et puis quand il y a l'eau qui arrive, et ben avoir un boom d'expression de ces populations de plantes.
Ça, on le rencontre dans les déserts, la rose des sables en particulier, des tas de plantes comme ça autour de la Méditerranée et dans les déserts qui peuvent rester en dormance et qui tout d'un coup s'expriment à la moindre goutte.
Ouais, donc c'est des milieux qui sont naturellement qui ont beaucoup décliné et donc qu'il est important de protéger. On a des espèces qui sont associées à ces mares temporaires, par exemple les libellules. Il y a certaines espèces de libellules qui ont besoin de ces mares temporaires pour pouvoir s'exprimer. Donc, mais sur le domaine de la Tour du Valat, il y a une gestion. Mais au-delà, on travaille aussi à des projets de restauration pour venir contrebalancer l'effet négatif que l'homme a pu avoir pendant de nombreuses années et qu'il continue d'avoir. Alors par exemple, on a un projet de restauration entre la mer et les étangs. Pendant longtemps, il y avait les salins du Midi qui ont exploité. Donc le salin du Midi exploite deux grandes zones en Camargue, le salin de Giraud et le salin d'Aigues Mortes. Et puis il a vendu une partie du salin de Giraud au Conservatoire du Littoral, il y a de ça maintenant plus de 15 ans. Et donc il y a un projet de restauration qui a permis aux populations de poissons comme l'anguille dont je vous parlais tout à l'heure de reconnecter la mer aux étangs qui sont plus à l'intérieur. Donc on a laissé faire la nature qui a cassé les digues qui étaient entretenues annuellement par les salins pour l'exploitation du sel. Et comme ça, on a recréé, naturellement, se sont recréées des dunes et des milieux qui sont fortement en déclin et qui avaient pratiquement disparu de la zone. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça joue un rôle de tampon par rapport aux entrées marines. Parce que donc l'eau peut rentrer et ressortir doucement et donc amener des sédiments qui sinon resteraient au large.
On va avoir, par exemple, en hiver, lors de tempêtes, beaucoup d'eau salée qui va arriver, mais qui ne pourra plus repartir après, derrière.
Voilà, c'est ça. On essaie de recréer des systèmes dynamiques qui sont propices à la biodiversité et aussi qui sont bonnes pour l'homme.
Et ça, vous faites également ce genre de programme à l'international, du coup, ce genre de restauration et travail. On va voir aussi si on retrouve un petit peu partout, au bord de la Méditerranée, ce genre de tension sur ces milieux que sont les estuaires et les zones humides.
Alors, on travaille beaucoup à l'international en collaboration avec de très nombreuses ONG pour les zones humides. Donc, il y a plein d'ONG dans chacun des pays qui sont très actives pour la conservation des zones humides et des menaces qui sont très fortes. Le tourisme, l'agriculture, l'urbanisation, le territoire méditerranéen est sous une tension très forte alors que c'est ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité, un endroit très riche pour la biodiversité. Et donc on travaille sur plusieurs niveaux, à la fois sur des programmes de restauration sur des sites justement qui ont été malmenés. Oui, donc on travaille dans plusieurs pays, on travaille en Espagne, en Tunisie sur des sites de restauration et puis on travaille aussi à la conservation par rapport aux menaces d'urbanisation. Je vous citais tout à l'heure par exemple le delta du Gediz en Turquie. On se mobilise et on mobilise les ONG par rapport à des projets d'infrastructures qui mettent en péril des zones humides. Je pense par exemple à des projets d'aéroports en Albanie ou au Portugal qui souvent se font au détriment des zones humides. Donc,
oui, parce que c'est plus facile de les faire là que sur des zones agricoles. C'est plus facile d'exproprier les oiseaux migrateurs que les agriculteurs.
Alors ça, c'est effectivement le cas de l'aéroport qui était en projet du côté de Lisbonne au Portugal, là, le long du Tage, et où finalement la mobilisation des acteurs a permis au projet de capoter, de ne pas avoir lieu. Ouais, ouais.
Et alors vous, à la Tour du Valat, qui avez cette vision un peu méditerranéenne des zones humides, est-ce que avec le changement climatique, ce qui arrive, donc des phénomènes climatiques plus extrêmes, souvent des sécheresses plus longues, et puis des pluviométries parfois beaucoup plus violentes, est-ce que ces milieux humides des zones méditerranéennes sont particulièrement résilients et forts face à ce changement climatique, puisqu'ils sont habitués à la dure, on va dire, ou est-ce qu'ils sont plus fragiles que d'autres ?
Eh bien, effectivement, les zones humides en Méditerranée sont très très fortement menacées par le changement climatique. On a une augmentation du niveau de la mer qui introduit plus de sel dans les milieux littoraux, et puis on a une grande pression du tourisme, de l'urbanisme qui vient très proche des côtes, et donc les zones humides sont prises en étau. Et donc, on a une augmentation des pressions qui se portent sur ces zones humides. Et si on n'agit pas rapidement, il faut dès maintenant réfléchir à une stratégie de retrait. Où est-ce qu'on va pouvoir mettre des zones humides plus à l'intérieur des terres, dans un monde où le niveau marin augmente,